Bonsoir, merci d'être venu ce soir pour la présentation donc, de ce livre de Baudouin Long qui est à côté de moi, qui vous dira bonsoir dans quelques instants. Ce livre qui est très intéressant en plusieurs titres parce qu'il offre une double approche, une approche chronologique dans un premier temps qui revient sur une chronologie quand même très complexe de toute cette transition. On a envie de dire transition, mais de tout cet épisode qui s'est passé en Égypte de 2011 et qui s'est ouvert il y a exactement 8 ans, le 25 janvier 2011, par une manifestation dont le nombre a surpris tout le monde, aussi bien les organisateurs que les forces de l'ordre, et qui s'est clos en plusieurs fois, mais dont l'une des principaux épisodes a été dont l'un des principaux épisodes a été donc les répressions de l'été 2013 au Caire, et dont certains d'entre vous, je crois, ont été témoins. Voilà. Donc, en revenant sur cette chronologie qui permet de resituer l'Égypte dans ce contexte révolutionnaire qui est très intéressant pour les observateurs, qui a permis en fait une ouverture à tous les niveaux de l'Égypte, voilà, aussi bien sur le plan politique, social, etc., et qui a constitué un terrain passionnant pour nombre d'observateurs sur place. Voilà. Et la deuxième partie de ce livre qui offre une approche plus thématique au niveau des acteurs et de certaines problématiques. Voilà. Je voudrais commencer par en fait que Baudouin se présente. Et j'ai été surpris de voir dans ce livre, je pensais que. Donc je me permets de tutoyer Baudouin, on se connaît du Caire, voilà, comme ça c'est plus simple pour nous. Tu étais visiblement au Caire en 2007, si j'ai bien compris. Alors je ne savais pas que tu étais arrivé aussitôt en Égypte. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire avec ce pays avant de rentrer dans le bouquin précisément?
Merci, bah, bonjour déjà et merci d'être venu. En fait, j'ai fait trois séjours au Caire et le premier était en 2007-2008. J'étais un très jeune étudiant qui faisait un stage en Égypte à l'ambassade de France au Caire. Voilà, c'était une première année. Je suis arrivé là un peu par hasard. Moi, je voulais plutôt aller à Jérusalem au départ, mais. Finalement, il y avait un stage qui se libérait, qui avait l'air intéressant, qui a été intéressant, et je n'ai eu de cesse de revenir après, donc notamment en 2010-2011. Puis je suis parti quelques mois et je suis revenu assez vite en début 2012.
D'accord. Et est-ce que tu étais présent il y a donc maintenant 8 ans, le 25 janvier 2011?
Oui.
Et qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là?
Alors, j'avais une double activité. Je prenais des cours d'arabe au DEAC, bien connu au Caire, et je travaillais comme journaliste freelance à Al-Masri Al-Youm dans leur édition anglaise, qui était dirigée par Lina Atala, qui aujourd'hui dirige le principal média indépendant en ligne en Égypte. Qui est une vraie et belle voie du journalisme indépendant en Égypte.
Voilà, alors en fait ce qui est intéressant et ce que Baudin m'a suggéré, c'est que si vous prenez ce livre, la couverture offre propose une photo. C'est une photo prise sur la place Tahrir qui est le long de. C'est le mur qui longe l'université américaine du Caire. Je voulais savoir en quoi cette photo est intéressante et pourquoi, si je crois que tu as choisi,
Ouais.
pourquoi tu as choisi cette photo?
Alors cette photo, donc en effet c'est un mur, c'est qui fait l'angle entre la rue Mohamed Mahmoud et la rue Qasr el-Aini. Et ce mur a été recouvert de graffiti pendant toute la période révolutionnaire, donc de 2011 à 2013. Et notamment d'un graffiti qui n'a pas arrêté d'être effacé et repeint Donc ce graffiti principal là qu'on voit au milieu, sur lequel il y a il y a une double face, la tête de Moubarak et celle du maréchal Tantawi, qui dirigeait le Conseil supérieur des forces armées, qui a mené la transition à partir de la chute de Moubarak. Voilà. Et en dessous, en fait, il y a un jeu de mots très égyptien sur un proverbe. Donc le proverbe initial, c'est et alors vous pardonnerez mon accent, c'est Eli Khalef Mamach, celui qui a enfanté ne meurt pas. Et le proverbe a été transformé en Eli Khalef Mamach en jouant sur alors Khalef, ça veut dire c'est celui qui a attribué. Enfin, ah oui, la signification, c'est celui qui a attribué n'est pas mort. Enfin, pardon. Le proverbe de départ, c'est celui qui a enfanté n'est pas mort. Celui qui laisse une descendance. Et le proverbe a été transformé en Eli Khalef Mamach. Khalef, c'est le mot qu'a prononcé Omar Suleiman, celui qui. Donc c'était le chef des renseignements généraux, nommé vice-président pendant les 18 jours de révolution, et qui a annoncé la démission de Moubarak. Et donc, dans son discours, il dit. Le président attribue au SCAF, donc le Conseil supérieur des forces armées, enfin l'autorité. Et donc voilà, donc là il y a tout un petit jeu de mots là-dessus et qui veut dire en fait Moubarak n'est pas mort, il s'est réincarné en Tantawi. Et alors là la photo elle a été prise le 30 avril 2013. Morsi a été élu président, donc Mohamed Morsi, c'est. Je sais pas en fait, je pense qu'il
Bah, on
y a
va.
beaucoup de monde qui connaît bien, mais.
On va peut-être prendre les choses de façon un peu chronologique au départ. Donc cette photo représente un peu tout ce qui s'est passé en Égypte au niveau des. À chaque fois, il y avait une sorte de figure autoritaire qui revenait. Et qui avait l'honneur de ce mur. Et c'était pour les révolutionnaires le symbole d'une sorte d'hydre autoritaire. À chaque fois qu'il y avait une tête qui était coupée, il y en avait une autre qui réapparaissait. Qu'est-ce qu'on peut garder déjà comme ce qui est important et ce que tu poses dans le livre? C'est que dès le 25 janvier, donc le 25 janvier, des manifestants. Défile au Caire. Le 28, il s'empare de la place Tahrir. Les forces de police disparaissent du pays. Et à ce moment-là, on a l'impression que Moubarak veut jouer lui ou le chaos. Et donc, on est dans une vraie incertitude et l'un des moments les plus violents de la Révolution. Et ensuite, s'ouvre une nouvelle phase qui est plus pacifique. Et finalement, ce que tu disais, c'est qu'il y avait. Peut-être une révolution du 25 janvier, mais un coup d'État du 11 février. Est-ce que tu pourrais développer du 11 février 2011, le moment où Moubarak quitte le pouvoir?
C'est vrai, la toute première manifestation, c'est le 25 janvier. Celle qui fait vraiment changer la mobilisation de dimension, c'est le 28 janvier, qui est la journée où les forces de l'ordre sont complètement défaites sur le terrain et sont contraintes au repli. Et elles se replient et l'armée entre dans le jeu, vient sécuriser un certain nombre de bâtiments principaux, etc. Donc là, enfin, le 28, c'est vraiment une journée très très importante parce que c'est le jour de c'est le vrai jour de la révolution, quoi, où on peut parler de révolution. Et le 11 février, après quelques épisodes divers et variés, une attente, surtout beaucoup d'attentes en fait, le 11 février, il y a une transmission du pouvoir, Moubarak démissionne, etc. Mais en fait, enfin, c'est un véritable coup d'État, quoi. Il y a au moins deux coups d'État dans cette période de transition. Et ça, c'est le premier coup d'État, le 11 février.
On y reviendra. Donc là, il n'y a pas un nouvel acteur, mais il y a un acteur qui, en tout cas, fait une entrée assez fracassante sur la scène politique égyptienne. Tu vas me corriger ou non. On peut dire que sur la scène politique égyptienne, il y avait donc les forces, disons, une sorte de coalition qui représente un régime, plutôt les militaires, après, tels qu'ils seront qualifiés dans la littérature qui a pu se produire à ce moment-là. Ensuite, les islamistes, et notamment les frères musulmans, qui étaient très structurés et qui avaient une présence sur le terrain qui était inégalable à ce moment-là et sans concurrence pour les autres acteurs politiques, a fait irruption avec cette révolution des forces civiles, Qouwat Madani, des forces civiles qui essaient de trouver une place entre eux, qui sont donc ni militaires, ni religieuses et islamistes. Est-ce que tu es d'accord avec ça, avec cette dénomination? Et est-ce que tu pourrais développer?
Bah, en fait, c'est vrai que on en a peut-être presque fait trop d'ailleurs sur ces forces civiles, parce qu'elles ont été, enfin, en tout cas, il y a un certain nombre d'activistes et de militants qui ont été à l'origine de la toute première mobilisation, qui n'était pas islamiste, qui n'était pas frère musulman, qui appartenait pas à la principale organisation d'opposition. Mais ils n'étaient pas très nombreux. Mais ils ont réussi ce pari de mobiliser. Enfin, il y a des forces civiles, mais je dirais qu'il y a surtout une explosion de. Il y a une ouverture politique, puis une explosion de participation politique, de création de partis, d'engagement dans des groupes, ou d'engagement tout court sans forcément adhérer à quelques groupes que ce soit, mais oui, vraiment beaucoup de petits partis révolutionnaires ou inspirés de la révolution, de mouvements, mais bon, qui n'ont ont pas c'est le voilà c'est la suite, qui n'ont pas réussi à transformer leur engagement politique militant en engagement partisan, enfin, réussi quoi. En tout cas, ils n'ont pas réussi à mobiliser dans les urnes. Ça, c'est le
Et c'est là où il y a une concurrence de légitimité qui se met en place.
Voilà. Alors, en fait, il y a un. Le 11 février, il y a ce coup d'État. Et puis, l'armée, en fait, propose une sorte de solution institutionnelle pour sortir de la crise, avec un processus de transition qui se met en route. De manière assez classique, ben on va faire des élections, et puis l'armée s'engage à remettre un pouvoir civil élu le pouvoir. Mais en fait, cette solution ne fait pas consensus, et donc finalement la légitimité des que va con, qui est censée conférer le vote lors des différentes élections qui suit est contesté par un certain nombre d'acteurs, donc notamment ces parties des acteurs civils qui disent mais non, mais il faut. Alors, là, il y a eu énormément de débats, mais des acteurs civils qui refusent de laisser une légitimité unique à l'élection, parce que l'élection en Égypte, elle est quand même ternie par tous les précédents de trucage en faveur du parti dominant. En plus, elle est vouée à élire, elle est vouée à porter au pouvoir les frères musulmans
Mais quel est le rôle de l'armée? Pourquoi est-ce que l'armée a voulu le départ de Hosni Moubarak, d'une part? Et d'autre part, c'était quoi son rôle précis dans la transition? Elle a organisé, est-ce qu'elle a joué la montre? Est-ce qu'elle a essayé d'organiser une transition rapide et efficace? Ou est-ce qu'au contraire, elle a joué la montre, elle a essayé de garder le plus possible la main sur un jeu politique qu'elle avait peut-être un peu perdu sous Moubarak?
L'armée, ouais, je pense qu'elle avait perdu un petit peu son poids politique. Elle le perdait de plus en plus, en fait, sous Moubarak. au profit d'un certain nombre d'acteurs, donc enfin au profit du président du ministère de l'Intérieur, qui s'est vraiment développé sous Moubarak, et au profit d'une classe d'affaires proche du fils du président, Gamal Moubarak. Donc l'armée était un peu en retrait. Donc pour elle, elle a vu, en fait, elle a vu une double, c'est un peu schématique, mais elle a vu une double opportunité dans la révolution. D'une part, écarter, enfin, reprendre, rétablir un petit peu sa place dominante au sein des structures de l'État. Et puis elle a voulu garantir une certaine stabilité. Ça, je pense que c'est pas qu'une question de pouvoir. Elle a bien vu, enfin, tout se casser la gueule, et excusez-moi l'expression, mais et donc elle est intervenue pour éviter le chaos. Enfin, c'est ce qu'elle a dit, mais c'est vraiment ce qui c'est je pense que c'est quand même quelque chose qui l'animait aussi. Et donc elle a pris le elle, et donc le 11 février, elle à partir du 11 février, en fait, elle est en charge du pouvoir exécutif, et là elle y était, enfin, on le voit bien après, elle y était probablement même pas du tout préparée, et elle a eu une stratégie très court-termiste, quoi, même un manque de stratégie. Elle lance un processus de transition, elle promet des élections, puis elle se rend compte que qu'elle a beaucoup à y perdre, donc elle va essayer de parvenir au bout de ce processus tout en conservant un maximum de garantie sur sa propre sur ses propres prérogatives, sur sa propre place au sein de l'État.
Parce que lors des premières élections disons législatives libres organisées en Égypte, donc en l'hiver 2011-2012, ce sont les Frères musulmans qui remportent, et enfin le parti des Frères musulmans qui remporte les élections. Est-ce que donc ils ont la majorité, donc elle a dans une nouvelle chambre, mais ils n'arrivent pas vraiment à la réalité du pouvoir leur échappe, c'est ça?
Oui, alors donc les Frères musulmans remportent un peu plus de 45% des sièges. La coalition salafiste remporte 25% des sièges, et en fait ils n'arrivent pas à imposer leur volonté aux militaires. Ils espéraient pouvoir nommer un gouvernement avant même qu'il y ait une élection présidentielle. Et puis les militaires leur disent non, mais nous on a le pouvoir exécutif jusqu'à la fin de la transition. Donc c'est nous qui continuerons à nommer le gouvernement. Et donc on a un parlement qui est élu, donc le premier parlement de la révolution, premier parlement élu avec des conditions très fair and free, comme on dit en bon français, des conditions très très justes, quoi. Ce parlement il est complètement impuissant.
Du coup les Frères musulmans avaient promis de ne pas présenter de candidat à l'élection présidentielle. Pressés par les événements, ils changent d'avis, n'est-ce pas?
Ils changent. Ils ont. Eux ils pensaient sûrement sincère. Enfin, ils étaient sûrement très sincères quand ils se sont engagés au départ, et ça faisait aussi. C'est au moins un engagement implicite vis-à-vis de l'armée. On se présente à l'élection législative, mais on n'ira pas au-delà. Ça nous permettra de. Ils espéraient, en fait, pouvoir rédiger la constitution. En tout cas, mais ils n'avaient pas l'intention, en tout cas ils ne l'avaient pas affiché, de se présenter à la présidentielle. Et puis une fois qu'ils sont dans le Parlement, ils se rendent compte que le Parlement est totalement impuissant, qu'il y a des candidats, qu'il y a un parti, d'abord qu'il y a un acteur nouveau, un peu inattendu, c'est les salafistes qui occupent 25% des sièges, un quart des sièges à l'Assemblée, et qui ont un discours beaucoup plus finalement novateur et révolutionnaire et islamiste qu'eux. Donc ils sont un peu un peu
Tu peux les
dépassé.
présenter. Ça a été un peu la surprise aussi de cette révolution, l'arrivée des salafistes dans le champ politique.
Oui, c'était. Enfin, les salafistes sont. On les a pas trop vu venir. Hein. Ils existaient en Égypte, ils étaient largement désengagés du champ politique, et puis ils ont saisi l'opportunité de l'ouverture politique pour présenter pour fonder un parti. Donc la Dawa Salafia, qui est la principale organisation salafiste en Égypte, qui fonde un parti, le parti El-Nour. Et avec bien sûr cette crainte, en fait, que si le politique, enfin le champ religieux est occupé uniquement par les frères musulmans au niveau politique, eux en risquaient d'être les grands perdants.
Parce qu'en théorie, un bon salafiste ne veut pas jouer le jeu démocratique, c'est ça? Et là, pourtant,
Voilà.
ils sont convertis au.
En gros, ouais, c'est.
Donc Morsi est élu en juin 2012, après un premier tour surprenant. Le premier tour, on s'attendait, les sondages prédisaient, c'est à ce point-là qu'on s'aperçoit qu'on connaissait quand même assez peu l'Égypte. Les sondages prédisaient Amr Moussa et Adel Manei Lagboufoutour, qui étaient deux candidats qui avaient beaucoup occupé l'espace médiatique, qui étaient les seuls qui avaient tenu un débat à la télévision avant l'élection. On s'attendait à ce qu'ils arrivent au premier tour, et en fait, pas du tout. C'est finalement. On va jouer à un duel qui est entre les militaires et Ahmed Chafik, qui était un militaire, l'ancien président qui est celui qui a refondé la campagne égyptienne, et qui était le dernier ministre de Hosni Moubarak, si mes souvenirs sont bons, qui était nommé pendant la révolution, qui est resté seulement quelques jours en fonction. De l'autre côté, Mohamed Morsi, qui était donc le candidat choisi par les frères musulmans, qu'on nommait en Égypte la roue de secours. C'était donc le duel entre la roue de secours et Ahmed Chafik, avec un troisième candidat qui était intéressant et sur lequel tu pourrais peut-être revenir, que tu pourrais peut-être présenter.
Hamdine Sabahi. En fait, l'élection présidentielle est très intéressante parce que enfin, aux législatives, on a un peu l'impression que ça y est, c'est terminé. Les islamistes sont. Enfin, il y a 75% de la Chambre qui est dominée par les frères musulmans et les salafistes. L'offre politique en Égypte, elle est variée, mais finalement, l'adhésion, elle est quand même. L'adhésion populaire, elle est concentrée sur deux mouvances pas très diversifiées. Et ben en fait, enfin, à l'élection présidentielle, on se retrouve avec des candidats avec enfin, deux candidats islamistes, Mohamed Morsi et Abdelmonem Boulfoutou, dont tu viens de parler. Qui lui est un ancien frère musulman assez libéral. Et puis Hamdine Sabahi, un Assyrien très, très engagé depuis ses années étudiantes. Il est né dans les années 50, si je ne me trompe pas.
Il a été emprisonné une quinzaine de fois, c'est ça?
Il a été emprisonné une quinzaine de fois et enfin, c'est une vraie figure de l'opposition sous Moubarak et de l'opposition à Sadat. Il est connu pour avoir tenu tête à Sadat lors d'une rencontre avec des étudiants. Enfin, et lui, il arrive en troisième position avec plus de 20%. Enfin, c'est vraiment intéressant de voir que finalement la pseudo-adhésion à l'islam. À l'islam politique au moment des législatives, bah elle doit être très très nuancée. Mohamed Morsi il a 25% des voix au premier tour, c'est quand même beaucoup beaucoup moins que ce à quoi son parti pouvait s'attendre.
Donc effectivement une adhésion à l'islam politique qui était pas si important qu'on pouvait penser. Et à ce titre, je peux rappeler que pendant la Révolution, les Égyptiens défilaient sous les slogans de Abba Hosni Moubarak, des slogans très consensuels, mais Abba Hosni Moubarak, et pain, liberté, justice sociale. Mais pas de référence ni à l'islam ni à Allah comme ça a pu arriver par exemple en Syrie. Je voudrais donc Morsi, Mohamed Morsi, le candidat à la route de secours, le candidat des Frères musulmans est élu en juin 2012. Les Frères musulmans essayent-ils au début de jouer un certain consensus, un certain pragmatisme?
Je pense que si on regarde de loin, c'est plutôt ce qui leur a manqué. Enfin, eux, ils jouent le consensus pour pouvoir être élus. Et en fait, une fois que dès qu'il est élu, Mohamed Morsi, il s'empresse de nommer, enfin il s'empresse pas, mais il nomme un gouvernement où il n'y a que des technocrates quasiment. Très peu d'hommes politiques et surtout aucun ministre qui viendrait d'autres partis que le sien, et ce qui provoque un peu l'indignation des forces on peut dire libérales, révolutionnaires, etc. mais qui sont quand même très variées, donc c'est un peu difficile de dire juste les forces libérales, révolutionnaires. Mais il parvient pas à aller au-delà de son propre camp, quoi. Et il se retourne très vite contre lui, l'opinion révolutionnaire, l'opinion les acteurs libéraux se retournent contre lui, mais parce qu'il a pas réussi à les inclure en fait dans sa formule de gouvernement.
Parce que Mohamed Morsi donc a été élu contre Chafik, et un certain nombre de personnes ont donné leur voix à Mohamed Morsi plutôt que de donner leur voix au candidat qui incarnait à ce moment-là donc les militaires ou les fouloules. Est-ce que tu pourrais expliquer ce terme?
Alors les fouloules, c'est les résidus littéralement, c'est les gens de l'ancien régime, quoi. Qui sont très présents en tout cas dans le discours de tous les acteurs politiques, que ce soit les Frères musulmans ou les révolutionnaires et tout, qui craignent le retour des fouloules. Parfois on se demande même un peu où ils sont vraiment, parce que il y a eu Ahmed Chafik, quoi, mais à part ça, mais même l'armée a pu parler des foules, c'est ce qui est paradoxal, mais voilà. Vraiment, Mohamed Morsi, oui, il réussit, il est élu sur cette peur du retour en arrière et sur cette alliance avec des gens qui sont pas du tout. Qui soutenait pas du tout son programme.
Alors là, entre un nouvel acteur, le plus jeune membre du Conseil supérieur des forces armées, il a 57 ans à l'époque, c'est son nom. Il s'appelle Abdel Fattah al-Sissi. Il fait la connaissance de Morsi.
En fait, ils se connaissent bien depuis. Ils se connaissent depuis. Ça fait un an qu'ils. En fait, ils se connaissent depuis janvier. 2011, puisque Abdel Fattah al-Sissi était chargé était le plus jeune membre du SCAF en charge des relations avec les révolutionnaires, puis après avec les Frères musulmans, et donc Mohamed Morsi, qui était le chef du parti Liberté et Justice, le parti des créé par les Frères, était son interlocuteur. Et ils se connaissent bien. Et Mohamed Morsi apprécie assez, enfin en tout cas c'est ce qui se dit, apprécie assez le côté un peu pieux du directeur des renseignements militaires, Sissi, qui fait bonne impression. Enfin le courant passe bien, Et donc, en août 2012, un mois après son élection, Morsi renvoie Tantawi, renvoie le chef d'état-major des armées, et Inops Nissi comme ministre de la Défense. Et c'est un vrai coup d'état, enfin un coup d'éclat en tout cas de Morsi qui renvoie l'armée dans les casernes. Et donc Sissi accepte le poste, il fait un grand ménage au sein du ministère de la Défense, et à ce moment-là, on le voit, enfin il est assez souvent présenté comme la taupe des frères, quoi. C'est assez intéressant.
Alors la base des frères musulmans se réduit de plus en plus. Morsi s'empare des pleins pouvoirs en novembre 2012. Je voudrais qu'on avance parce que le temps passe. Ça devient de plus en plus difficile pour les frères musulmans d'imposer leur jeu. Et arrive la campagne de Tamarrod, qui va en fait jouer une sorte de deuxième rang dans cette révolution.
Ouais, en fait les frères ont un gouvernement assez enfin ils avancent tout seuls. Ils avancent tout seuls, et plus ils avancent tout seuls, et moins le moins le moins le plus l'opposition est forte. Alors il y a une opposition qui est parfois un peu injuste avec eux, hein, il y a ce mouvement qui se crée, qui appelle à voter une pétition contre Morsi, et qui vise d'avoir 15 millions de signatures en disant bah il était élu avec je sais plus 12 ou 13 millions de voix.
C'est à peu près ça, oui.
Voilà. Et bah si on arrive à 15 millions, il sera plus légitime, puisque nous on enfin, voilà, si 15 millions d'Égyptiens disent Morsi, tu dégages, et ben Morsi, tu dégages. Alors on a souvent dit que Tamaraud avait été instrumentalisé par l'armée, par les services de renseignement égyptiens. C'est partiellement vrai, mais enfin, on peut pas. Je pense qu'on peut pas sous-estimer la vraie adhésion. Qu'il y a eu à Tamaroud, quand même s'ils n'ont pas eu autant de voix ils ont dit qu'ils avaient plus de 20 millions de voix, enfin 22 millions de voix, ils n'en ont peut-être pas eu autant, pas autant de signatures, mais en tout cas il y a une vraie adhésion, indépendamment du soutien de l'armée ou du CSFA ou des services de renseignement.
Mais c'était enfin, ils ont récolté très grand nombre de voix, effectivement. Manifestation immense le 30 juin 2013 au Caire et dans toute l'Égypte. Et à ce moment-là, Mohamed Morsi prononce un discours où il y a un mot qui revient très souvent.
La légitimité, enfin il revendique en fait, bon, il est vraiment acculé, parce que le 30 juin, donc il y a cette énorme manifestation, puis il y a l'armée qui, en fait, il y a Sissi qui annonce que l'armée soutiendra la légitimité du peuple, et puis qu'elle donne 48 heures à Morsi pour réagir. Et en fait, Morsi, face à cet ultimatum, dit: mais non, mais moi j'ai été élu, je suis légitime, j'ai l'égalité avec moi, donc il bouge pas, quoi. Un discours énorme, et il répète 70 fois Sharaya.
Ça ne suffit visiblement pas parce que Abdel Fattah al-Sissi le dépose le 3 juillet, donc quelques 3-4 jours après. Les frères musulmans contre-attaquent en organisant un sit-in, notamment un peu à l'extérieur du Caire, la place Rabaa al-Adawiyya. Et l'avenir de ce sit-in est compromis à la fin du Ramadan en août 2013, d'une façon extrêmement violente. Est-ce que tu pourrais revenir sur cet épisode?
On a deux sit-ins qui perdurent, hein, et puis finalement début août, Sissi prononce un discours dans lequel il invite les Égyptiens à manifester pour lutter contre le terrorisme. Enfin, pour, et donc il y a une grande manifestation et qui lui donne une sorte de blanc-seing
Et c'était le 26
pour
juillet
réprimer
2013, il demande aux Égyptiens de lui donner le jour de la fête nationale égyptienne.
Ouais.
Il demande aux Égyptiens de lui donner le mandat, c'est ça, pour en finir avec cette situation. Et donc des millions d'Égyptiens manifestent dans les rues en disant oui, si, nous te donnons notre mandat pour en finir avec cette situation. Le truc, c'est que cette situation se finit de façon assez dramatique.
Ah, donc les deux places sont entourées et l'armée, les forces de sécurité vident les places. Il y a plus de 1000 morts. Et bon, c'est le plus un des plus grands massacres de civils. Alors l'armée se justifie en disant qu'il y avait des armes, etc. En fait, bon, il y en avait visiblement très peu, en tout cas pas suffisamment pour justifier un tel massacre. Et à partir de là, l'ouverture, c'est vraiment le coup d'État, puis la répression de Rabat et la Daouia, c'est la fin de cette période d'ouverture politique et de transition qui appelle un nouveau régime qu'on connaît aujourd'hui.
Alors, donc Abdel Fattah al-Sissi qui avait promis de ne pas se présenter aux élections présidentielles se présente aux élections présidentielles et il est élu. Étonnamment, alors il n'y a pas de consensus. C'est donc les frères musulmans, les nouvelles autorités veulent vraiment finir avec les frères musulmans d'une part, mais aussi avec d'autres oppositions, n'est-ce pas?
Oui, en fait, ils ont, enfin, l'armée a, enfin, en tout cas, Sissi a un peu loupé. Il a probablement loupé l'opportunité d'avoir un soutien beaucoup plus large, parce que quand il est arrivé, même une grande partie des libéraux, etc., soutenait sa politique et était même assez favorable à la répression contre les frères, peut-être pas de manière aussi brutale, mais en tout cas, enfin, Baradei était un des vice-présidents jusqu'à Rabat et la Daouia. Mais très vite, enfin, il a laissé aucun espace à l'opposition, et donc les frères musulmans ont été vite rejoints en prison par tout type d'opposants. L'élection législative de 2015 après a été boycotté par la plupart des partis vraiment indépendants, quoi.
On va passer assez vite aux questions. Donc, revenons sur les principaux acteurs. Comment pourrait-on caractériser le régime égyptien aujourd'hui?
Aujourd'hui, on a un régime autoritaire qui s'est réinstauré. Alors moi, qui s'est réinstauré, mais c'est un régime qui est quand même assez différent de celui de Moubarak, parce que à l'issue de la transition, on a eu un certain nombre de changements au-delà de la simple alternance et du simple fait que la répression est encore pire qu'avant. Il y a eu un vrai changement en interne. Ce changement, c'est que toute la classe d'affaires très prospère dans les années 2000 a été complètement écartée pour être remplacée par l'armée, finalement. Cette prééminence de l'armée dans l'Égypte de Sissi, elle est très, très importante pour comprendre les équilibres et ce qui se joue en ce moment, parce que Sissi, tous les présidents avant lui, en fait, ont réussi à créer un peu des contre-pouvoirs pour limiter les ambitions des militaires, en faisant un ministère de l'Intérieur fort, en développant les services de renseignement, en donnant un pouvoir économique à certains hommes d'affaires, etc. Et Sissi, il a pas du tout ça. Et donc aujourd'hui, on a l'impression d'avoir on parle beaucoup de Sissi, de l'équipe de Sissi, etc. Mais on a en tout cas dans les premières années qui suivent son arrivée, on a un régime. Sissi, c'est la devanture d'un régime militaire masqué et avec une armée omniprésente dans tous les domaines, de la sécurité, de l'économie. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu à l'heure des recompositions et avec. Il n'y a jamais eu autant de changements, notamment à la tête du ministère de la Défense, des principaux services de renseignement et tout, que depuis 4 ans. Il y a une vraie crainte de Sissi d'être débordé par cet entourage militaire.
Que sont les frères musulmans devenus et est-ce que ils peuvent potentiellement revenir d'une façon ou d'une autre?
Bah, ils se sont fait. Ils se sont fait. Enfin, toute la hiérarchie de la confrérie a été incarcérée. Les militants, c'est pareil. Ceux qui n'ont pas été tués, place Rabah El Adawiya, ils sont soit en prison, soit en fuite, soit cachés. Quoi. Enfin, la confrérie, elle est totalement. Totalement inexistante, et puis en plus cette période d'accession au pouvoir, etc., ça a créé quand même des fortes dissensions à l'intérieur, et donc même d'un point de vue intellectuel et organisationnel, si elle doit renaître un jour, elle renaîtra probablement très très de manière très différente, quoi.
Au niveau des acteurs qui étaient ce qu'on appelle les révolutionnaires dans la révolution du 25 janvier, où sont-ils aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce que ils peuvent être amenés à jouer un autre rôle?
Ben, les révolutionnaires, je pense qu'il faut faire déjà la part entre les. Finalement, les révolutionnaires, c'était tout le monde, quoi. Enfin, c'était tous les gens qui sont descendus. Et il faut faire. C'est ce que je dis dans le bouquin, faire la part entre les militants et les révolutionnaires. Et les militants, c'est la petite frange. C'est une petite frange d'activistes très impliqués politiquement, etc. Mais après le 25 janvier, le 28. Tous ces épisodes, tout le monde pouvait se sentir, enfin tous les gens qui étaient descendus, qui n'ont jamais été militants, et eux ils étaient, enfin ils le sont, ils sont devenus révolutionnaires. Alors ils ont pu s'impliquer dans des partis, dans des mouvements, mais sans devenir de vrais militants. Il y a eu un peu des entrées et des sorties. On a l'impression souvent que après le 11 février 2011, les révolutionnaires ont disparu, mais en fait c'est juste que les révolutionnaires ils venaient de certains groupes, mais c'était aussi des jeunes, des jeunes frères musulmans, des jeunes de déjà engagés dans d'autres partis, ou juste des gens normaux, mais qui n'avaient pas non plus envie de formaliser leur engagement outre mesure. Et puis alors aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu dans la dépression. Il y a ceux qui ont continué et qui sont réprimés, ceux qui sont restés qui sont emprisonnés, hein, et puis ceux qui sont partis, et ceux qui ont abandonné tout activisme. Enfin, il y en a qui ont repris une vie normale, si on peut dire, quoi.